On a vu passer hier une nouvelle concernant la mise en place de mesures visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte dans les services publics québécois. Une mesure que je trouve ô combien nécessaire. Combien de fois on a été interpellés, nous, au service des nouvelles, par des gens, souvent dans le service de la santé, qui nous disent « Je requiers l'anonymat parce que je dois dénoncer quelque chose, mais si quelqu'un le sait, je perds ma job. » Puis souvent, ça avorte ces tentatives de dénoncer parce que les gens ont de l'anxiété, se mettent à angoisser et finalement décident de revenir sur leur décision parce que ils ont peur de perdre leur travail. Donc, on va en parler avec Marc-André Dard, qui est le protecteur du citoyen. Monsieur Dard, bonjour.
Bonjour.
Donc, je le parlais, hein, c'est moi, en tout cas, je l'ai vécu souvent dans mon expérience de journaliste, des gens qui ont voulu dénoncer, mais qu'à un moment donné, il y avait vraiment une peur. On sent qu'il y a une omerta un peu là-dedans. Parlez-nous de la nécessité, justement, de mieux protéger les lanceurs d'alerte.
Bien, vous avez raison, ça prend beaucoup de courage pour les lanceurs d'alerte pour dénoncer un acte répréhensible dans leur milieu de travail. On a peur des représailles. Si on parle, qu'est-ce qui va se passer? On entend qu'on est soumis à un devoir de loyauté. Qu'en est-il quand on est témoin de quelque chose qui est inacceptable dans notre organisation? Bref, la nécessité de renforcer un mécanisme externe, indépendant, qui peut intervenir, recevoir la divulgation du lanceur d'alerte en toute confidentialité. Puis ça, c'est la base de notre travail au protecteur du citoyen. C'est de s'assurer que jamais on va divulguer l'identité de notre lanceur d'alerte. Donc, on va tout faire pour protéger son identité. Et, dans le fond, le législateur nous donne les moyens d'enquêter sur les actes répréhensibles qui seraient dénoncés au protecteur du citoyen. Alors, de quoi on parle, par exemple? Qu'est-ce que c'est les actes répréhensibles au sens de la loi? On peut penser, par exemple, à des manquements graves à l'éthique. On peut penser à un cas grave de mauvaise gestion, un abus d'autorité, un usage abusif de fonds publics. Ça serait des bons exemples d'actes répréhensibles que les gens peuvent venir divulguer en toute confidentialité au protecteur du citoyen.
Et là, on annonce la création d'une centrale de signalement en matière d'intégrité publique. Qu'est-ce que ça change versus ce qu'on faisait auparavant?
Oui, alors faut savoir que le protecteur du citoyen intervenait déjà depuis 2017, une première loi là dont je vous épargne le nom parce qu'il est très long, mais qui faisait en sorte que les gens pouvaient venir depuis 2017 au protecteur du citoyen. Donc on intervenait déjà en intégrité publique. Ce qui est nouveau, c'est que jusqu'à la semaine dernière, il y avait dans les organismes, les ministères, les organismes publics, un responsable de suivi de divulgation, donc un responsable interne qui lui aussi pouvait recevoir et traiter aux premières étapes des divulgations d'actes répréhensibles. Puis avec le temps, on s'est rendu compte que ça posait des problèmes parce que la personne à l'interne, elle se retrouvait souvent dans une position inconfortable entre l'arbre et l'écorce. Des fois, elle recevait de l'information qui pouvait concerner des hauts dirigeants dans l'organisation, donc elle n'était pas à l'aise d'intervenir. Bref, le législateur a fait le constat que c'était pas la meilleure façon et dorénavant, depuis le 30 novembre, en fait, là, c'est tout récent, toutes les divulgations vont venir au protecteur du citoyen et il n'y aura plus de recours interne pour traiter les divulgations d'actes répréhensibles. Ça va être tout dirigé au protecteur du citoyen. Puis nos anciens responsables de suivi de divulgation dans les organismes et ministères vont devenir des responsables de la gestion de l'éthique et de l'intégrité, mais leur rôle va changer. Leur rôle, ça va être de faire connaître le recours à leurs employés pour dire, si vous êtes témoin d'un acte répréhensible, venez me voir, je vais vous donner de l'information, va aider à faire cheminer la divulgation vers le protecteur du citoyen, puis pourra aussi faire des activités de prévention des actes répréhensibles dans son ministère, dans son organisme. Donc, un rôle positif là, de renforcer la culture d'intégrité publique dans chaque milieu. Alors, c'est ça le grand changement. Donc, nous, on a mis, évidemment, on va recevoir un nombre plus important de divulgations parce qu'on va traiter les divulgations qui étaient traitées à l'interne avant. Donc, on a mis sur pied une centrale de réception des signalements qui est en fonction depuis hier.
On dit aussi dans la communication qu'en matière de représailles, vous avez de nouveaux pouvoirs également.
Exactement. Et c'était une faiblesse qui avait été documentée de l'ancien régime législatif, là. C'était qu'il y avait une protection dans la loi contre les représailles. Mais si on était victime de représailles, c'était concrètement là, qu'est-ce qui arrivait puis qui nous protégeait. C'était compliqué. Il y avait un recours à la CNSST qui était peu connu, peu utilisé. Alors, dans les principales critiques qui étaient faites, c'est qu'il fallait renforcer les mécanismes de protection contre les représailles. Alors, encore une fois, le législateur a fait confiance aux protecteurs de citoyens, puis nous a donné des nouveaux pouvoirs en matière de protection contre les représailles. Alors, toute personne qui pense qu'elle est victime de représailles parce qu'elle a soit divulgué un acte répréhensible, qu'elle est un lanceur d'alerte, ou parce qu'elle a, par exemple, participé à une de nos enquêtes, à ce moment-là, elle peut venir chez nous, déposer une plainte en représailles. On va offrir un service de médiation, c'est-à-dire qu'on va désigner un médiateur ou une médiatrice pour essayer de tout de suite, dès le début, régler avec l'employeur la situation. Puis si ça ne fonctionne pas, et ça c'est vraiment nouveau, le protecteur du citoyen va pouvoir s'adresser à un tribunal pour protéger la personne des représailles qu'elle pourrait vivre. Alors ça, c'est le pouvoir de faire valoir les droits de la personne devant, par exemple, le tribunal administratif du travail ou devant un autre tribunal qui ce serait pertinent. Alors là, il y a comme un recours judiciaire efficace qui est mis en place et qui va être assumé par le protecteur du citoyen.
On a déjà vu le gouvernement du Québec tenter, si je reviens aux journalistes, de forcer les journalistes à dévoiler leurs sources. Lorsque le gouvernement était dans l'embarras dans certaines enquêtes, les journalistes, moi j'ai un exemple en tête, la journaliste en question avait refusé, mais on avait poussé ça, on avait vraiment tenté par à peu près tous les moyens inimaginables de lui faire cracher le morceau. Est-ce que dans ce genre de situation, est-ce que le gouvernement pourrait quand même tenter par des moyens à sa disposition d'obtenir l'identité de la personne pour qu'il y ait des représailles, tout dépendamment de l'ampleur de la situation dévoilée?
Oui, mais je ne pense pas parce que la loi est très, très claire. Elle l'était déjà, puis elle l'est encore plus dans sa nouvelle mouture. Okay. La protection de l'identité, la protection de la confidentialité du lanceur d'alerte, c'est à la base de la loi. Puis c'est pas un choix, c'est un choix assumé du législateur de confier au protecteur du citoyen ces responsabilités-là. Parce que je rappelle qu'on est indépendant. Moi, je ne relève pas du gouvernement, je relève de l'Assemblée nationale. Alors, cette indépendance-là, cette impartialité-là me donne une distance face au pouvoir exécutif. Alors, je pense que c'est une garantie supplémentaire qui fait qu'on va être en mesure de protéger l'identité de nos lanceurs d'alerte.
Et c'est important, justement. Pourquoi est-ce qu'on vise à mieux protéger les lanceurs d'alerte? Et je voudrais vous entendre là-dessus. C'est parce que, et en fait, c'est important. Ces gens-là sont nécessaires parce que c'est des grosses machines. Les différents ministères, les services publics qu'on administre, c'est très gros et souvent, les décideurs sont loin du plancher des vaches en bon français. Donc, on a besoin des gens sur le terrain pour être un peu nos yeux, nos oreilles, puis le dire, hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est nécessaire dans une démocratie saine et dans un milieu d'environnement sain, là.
Et je peux pas le dire mieux que vous venez de le dire. Vous venez de résumer exactement pourquoi ces protections-là sont importantes. L'idée aussi, c'est de renforcer la confiance de la population envers les services publics. Alors, si la population comprend qu'il y a des mécanismes, vous avez raison, là, dans des grosses machines, il va arriver des situations déplorables. L'important, c'est qu'on soit en mesure de les détecter, qu'on soit en mesure de les enquêter, de les porter à l'attention des décideurs. Puis dans la loi, là, c'est quand on va en enquête, on avise le premier dirigeant, soit le sous-ministre du ministère, soit le président ou la présidente de l'organisme. Donc, on est vraiment au niveau des premiers dirigeants pour faire état de la situation, faire des recommandations au terme de l'enquête pour mettre fin à l'acte répréhensible, mais aussi, et je dirais même surtout, pour mettre en place des mesures pour éviter que des situations comme ça se reproduisent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'organisme ou dans le ministère pour éviter qu'une situation comme ça qui est arrivée se reproduise dans l'avenir? Donc, il y a un rôle aussi, je dirais, pas seulement de mettre à jour puis d'arrêter, mais de prévenir pour l'avenir les actes répréhensibles.
Il y a des gens qui nous écoutent, M. Dard, aujourd'hui, assurément, parce que je le dis, ils sont nombreux à nous écouter ici à la radio, mais nombreux souvent à vouloir dénoncer. On a beaucoup, beaucoup de services publics ici dans la MRC Vallée de la Gatineau. C'est des grands employeurs, si on pense aux écoles, aux endroits qui prodiguent des soins de santé, comme les hôpitaux, CLSC. Bref, c'est des employeurs importants, donc des gens qui nous entendent. Si des gens l'écoutent, souhaitent dénoncer, pouvez-vous nous expliquer rapidement la marche à suivre, la bonne marche à suivre pour pouvoir s'adresser à vous?
Tout à fait, c'est très simple. Je vous invite à aller sur notre site Internet Protecteur du citoyen en un mot, protecteurducitoyen.qc.ca. Nous avons à ce moment-là un formulaire sécurisé. Donc, vous allez voir, là, c'est assez clair sur le site Internet, je souhaite divulguer un acte répréhensible. Il y a un formulaire sécurisé. Alors, ça, c'est important de dire, les données que vous allez inscrire là-dessus sont encryptées. C'est un formulaire qui est sécuritaire. Et nous, ça nous permet d'être saisis de la situation. Puis, on revient à ce moment-là rapidement. On s'engage à revenir rapidement aux lanceurs d'alerte ou aux divulgateurs. Aussi, la possibilité de nous joindre à notre numéro général qui est le 1-800-463-5070 du lundi au vendredi là, de 8h30 à 16h30 et la personne qui va prendre l'appel très rapidement va envoyer l'appel dans l'équipe spécialisée, la centrale de signalement qui est chargée de recevoir les divulgations comme ça.
Et j'imagine que est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui est au bureau, je dis n'importe quoi, une infirmière qui est à l'hôpital de Maniwaki qui constate quelque chose, est-ce qu'elle est mieux de faire sa divulgation sur son portable personnel à la maison ou sur une adresse courriel personnelle ou si elle le voit, elle peut très bien prendre le téléphone du bureau avec son adresse professionnelle de courriel? Est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont privilégiées?
Ce qu'on voit là pour les divulgateurs, ils utilisent souvent, puis je pense que c'est une bonne pratique, une adresse de courriel personnelle, un numéro de cellulaire personnel, en évitant d'utiliser l'adresse professionnelle. Alors, évidemment, dans un cas comme ça, quand on utilise son adresse personnelle, bien, il n'y a pas de risque qu'il y ait une vérification qui soit faite à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne pratique que si les gens veulent utiliser une adresse courriel personnelle ou indiquer un numéro de cellulaire personnel.
Et on leur garantit la confidentialité.
C'est à la base de notre engagement.
Monsieur Marc-André Dard, je le rappelle, vous êtes protecteur du citoyen. On revenait sur ces mesures récemment mises en place pour mieux protéger les lanceurs d'alerte dans les services publics québécois. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, le protecteur du citoyen vous assure que vous pouvez, sans avoir crainte là, de perdre votre emploi ou de subir des représailles, faire part d'éléments que vous jugez qui sont inacceptables ou qui pourraient être améliorés dans votre service. Monsieur Dard, merci beaucoup.
Un grand merci à vous. Au revoir.
C'est donc ainsi que prend fin l'émission L'heure juste d'aujourd'hui. Félix-Antoine Parent qui était avec vous, votre animateur. Ça a été un plaisir de vous accompagner. Restez branchés au CAGA.fm, différents bulletins de nouvelles qui s'en viennent tout au long de la journée. L'émission Terminus qui s'en vient aussi à 15h avec Sébastien Plouffe. Et vous aurez la chance d'entendre une nouvelle journaliste chez nous sur nos ondes cet après-midi, Michel Tanganyika, une nouvelle recrue au service des nouvelles qui fera son baptême en ondes cet après-midi. Donc, je vous invite à l'écouter. Sinon, l'émission est en rediffusion ce soir à 18h, est également disponible sur le caga.fm dans la section émissions sous l'onglet L'heure juste, vous allez pouvoir y retrouver tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a partagé aujourd'hui à l'émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.